de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous demander pourquoi et comment faire passer sa science, plus exactement la science et la culture scientifique dans la société. Enjeu de taille, à l'heure où la science omniprésente dans nos vies à travers les innovations technologiques nous pose de plus en plus questions. Et pour se poser les bonnes questions, justement, il faut savoir de quoi on parle, de quoi il en retourne, de quoi sont faites les recherches, comment et dans quel but. C'est tout le propos de la première manifestation internationale Science and You qui rassemble en Lorraine pour une semaine de rencontres et d'événements publics, des chercheurs de toutes disciplines et des médiateurs scientifiques. L'un des parrains de cet événement, le physicien et philosophe Étienne Klein, est notre invité aujourd'hui sur RFI autour de la question « Comment partager sa science ?» Bienvenue. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. C'est toujours un grand plaisir de recevoir le physicien et philosophe que vous êtes. Directeur de recherche au CEA, vous dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, professeur à l'École centrale de Paris, auteur de nombreux essais sur la matière et le temps notamment. Vous êtes Étienne Klein, un passeur de science dans vos ouvrages comme dans les médias. C'est important pour vous de faire passer la science?
Ben disons que quand j'étais étudiant en sciences, je comprenais pas tout ce qu'on me racontait. Et un jour, j'ai dû enseigner à des étudiants et je me suis demandé comment faire. Et j'ai dû mettre sur pied ma propre méthode. Et je me suis rendu compte que la science était vraiment une démarche intellectuelle extrêmement originale, très décalée, qui n'est pas spontanée, qui est le résultat d'une très très longue maturation. Et ça m'a passionné de savoir trouver les moyens de dire avec des mots, avec des équations, ce qu'on apprend par la méthode scientifique. En l'occurrence, c'est la physique.
Trouver le temps, trouver les mots pour le dire, hein, autour de la question comment partager la science. On va commencer, nous, par une petite minute de réflexion sonore inspirée par cette manifestation Science and You avec le mix culturel et scientifique de Guillaume Ploquin.
Science and You, c'est un événement d'envergure internationale autour des sciences et de la culture.
Elle va bien au-delà de la diffusion d'un savoir vers le public. Elle engage aussi toute une réflexion sur les relations entre sciences et société.
Communication scientifique, c'est quelque chose dans quoi je me suis engagé très fortement parce qu'on voit qu'il y a un vrai déficit de figures scientifiques sur ce terrain et une soif considérable de la société en général.
C'est un projet qui vise différents publics, qui vise à faire un événement de la culture scientifique et technique et pas simplement une réunion entre chercheurs.
Il n'y a pas que les lieux de l'école pour parler de la science.
Entendre de la science, comprendre les discours qu'elle permet de tenir sur le réel, normalement, ça produit de l'émerveillement.
On attend du grand public de parler de science à leurs enfants, à leurs amis, d'évoquer, partager ce qui les fait rêver. Cela est extrêmement important.
C'est vraiment un problème mondial, qu'on soit en Europe, en Grande-Bretagne, en Hollande, en France, mais aussi au Brésil, en Chine, en Corée. Partout, les pays investissent dans des politiques de culture scientifique.
La science n'est qu'une longue suite d'erreurs corrigées.
La science, c'est surtout pas la vérité.
On a un avantage de fait avec la bioinspiration, puisque c'est des expériences que tout le monde peut faire au quotidien en observant son environnement ou en se promenant dans la nature.
Le rôle du chercheur, c'est le rôle de l'expert. Nous apportons de la consultance, nous apportons des conseils, mais la décision n'est pas de notre ressort.
Étienne Klein, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre?
Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un enjeu de connaissance. La science est un fait social total. Alors on la trouve partout, notamment par les applications qu'elle permet de réaliser. Mais c'est aussi un problème de citoyen, puisqu'il y a des décisions à prendre et ces décisions doivent être éclairées au maximum. Sinon, on peut se laisser manipuler par toutes sortes de croyances ou d'intentions qui ne sont pas exclusivement basées sur la connaissance de la vérité.
Parce que la science, elle pose problème quand même aujourd'hui dans la société. Elle pose problème à beaucoup de gens.
Bon, la science, pour moi, elle est neutre. Si on réduit la science à l'ensemble des connaissances que cette démarche particulière, comme je le disais tout à l'heure, a permis d'obtenir, elle est neutre. Elle ne dit pas ce qu'il faut faire. Elle nous dit ce qu'on peut savoir, ce qu'on sait, ce qu'on ne peut plus croire parfois. Mais elle produit aussi une forme d'incertitude. une incertitude d'un type très spécial. C'est-à-dire que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire de ce que nous savons. Et du coup, comment décider? Voilà. Par exemple, la biologie nous dit comment faire des OGM. La physique nous dit comment faire des centrales nucléaires. Est-ce que nous devons les faire? Avant, on répondait oui, si on peut les faire, puisque la science était enchâssée avec la technologie dans une sorte de projet de société qui était mis sous la coupe de l'idée même de progrès. Donc si on peut le faire, on doit le faire parce que ça nous porte vers un avenir qui sera différent et sans doute meilleur. Aujourd'hui, cette idée du progrès s'est problématisée. Du coup, la question qui se pose, que devons-nous faire à partir de ce que nous savons, est une question qui met en jeu non pas des principes, mais des valeurs. Or, nous ne sommes pas tous d'accord sur les valeurs. La valeur d'une valeur, elle dépend des évaluateurs, et ça crée des controverses qui rendent les décisions très difficiles à prendre.
Il faut donc avoir, pour nous, hein, citoyens, tous les éléments en main autour de la question comment faire passer ou comment partager la science. Il y a la question des mots qui est importante pour la faire passer ou pour la partager.
Oui, mais le problème, c'est que pour faire ce que vous dites, c'est-à-dire tout savoir et avoir tous les éléments pour décider, il faudrait le cerveau de 1000 Einstein ou de...
Donc c'est pas possible aujourd'hui.
Donc c'est pas possible. Donc il faut accepter de décider en méconnaissance de cause. Et en général, on le fait parce qu'on a confiance dans des gens plus compétents. Mais il y a aujourd'hui un problème de confiance à l'égard des experts, de sorte qu'on est dans une sorte de crise, en effet. Et la question du langage est la question qui apparaît dès qu'on veut transmettre des savoirs très élaborés, parfois très abstraits.
Oui, quand on est physicien, voilà, par exemple.
Quand on est physicien, on apprend les choses grâce aux équations, grâce à des formalismes, grâce à des théories, et ces théories ne parlent pas, elles ne parlent pas d'elles-mêmes. Et donc, et d'autre part, ce qu'elles diraient si elles pouvaient parler n'est pas contenu dans le langage. Notre façon de dire le temps, par exemple, depuis très longtemps, est en contradiction avec ce que la physique dit du temps. Donc la physique n'est pas...
Le temps ne passe pas.
Voilà, la physique n'est pas insérée d'emblée dans le langage. Et donc, si vous voulez la dire par le langage, il faut commencer par faire un travail sur le langage.
Et qu'il faut quoi? Inventer des mots pour faire passer ce que vous comprenez, pour nous le faire passer?
Moi, je dirais qu'il faut creuser une sorte de langue étrangère au sein même de la langue. C'est-à-dire, il faut essayer de montrer que la langue est truffée de raisonnements implicites, de façons de penser qui sont traduites en mots, dont nous avons l'habitude. Et la science est là pour produire des chocs dans notre pensée, dans notre façon de dire les choses, et ces chocs étant intégrés, peuvent conduire à des modifications du langage.
C'est-à-dire, par exemple, pour le temps sur lequel vous travaillez, comment est-ce qu'on peut parler? Enfin, dans la vie quotidienne, on dit le temps passe ou le temps ne passe pas, mais c'est pas comme ça qu'il faut parler. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple?
Il ne s'agit pas de faire une police de la pensée ou du langage.
Merci.
Mais, enfin, Paul Valéry disait justement à propos du temps qu'il faudrait procéder à un nettoyage de la situation verbale. C'est-à-dire qu'on met le mot temps aujourd'hui à toutes les sauces. On l'utilise pour désigner le changement, le mouvement, la succession, la simultanéité, l'argent, la mort, l'espace. Enfin, il est vraiment victime d'une sorte de polysémie.
Du coup, il faudrait au moins comprendre à quel point on emploie le mot temps dans tous les sens.
De temps en temps, il faudrait s'arrêter sur les expressions que nous utilisons qui contiennent le mot temps pour essayer de voir ce qu'elle veut dire. Par exemple, je dis « je n'ai pas le temps ». C'est une phrase que tout le monde prononce trois fois par jour. « Je n'ai pas le temps », ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire que la disponibilité qu'il me faudrait avoir pour faire ce qu'on me demande de faire, cette disponibilité, je ne l'ai pas. Pourquoi je ne l'ai pas? Parce que le temps, en passant, contraint mon emploi du temps, de sorte que je ne suis plus libre. Autrement dit, c'est parce qu'il y a du temps qui passe que je n'ai pas le temps. Vous voyez que le mot « temps » est utilisé pour désigner ici la liberté. Je n'ai pas la liberté, ce qui n'est pas exactement la même chose que le temps.
Mais qui peut permettre de réfléchir à la notion de temps, justement.
Voilà. Et la physique, elle est arrivée avec Newton pour dire que le temps n'a pas les propriétés que le langage lui attribue. Par exemple, nous disons quand plus rien ne change, le temps s'arrête. Newton dit, ben non, quand il ne se passe plus rien, le temps continue à passer. Et d'ailleurs, quand il passe, il ne change pas sa façon d'être le temps. Il reste identique à lui-même. Hein, le paramètre T des équations de la physique est un paramètre qui ne dépend pas du temps. C'est-à-dire que le temps, en passant, ne change pas sa façon d'être le temps. Et ça contredit un petit peu la façon de décrire le temps par le langage. On dit que le temps passe. On devrait se dire, mais à force de passer, il va finir par s'user.
Or, il ne s'use pas.
Il ne s'use pas. Il est toujours identique à lui-même
Au fond, c'est des aiguillons pour la pensée, ça aussi. Rien que d'employer ces mots-là, rien que de réfléchir à ces mots-là.
Voilà. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter de temps en temps et éprouver ces chocs. C'est-à-dire, entendre des discours de physiciens, on n'est pas obligé de les comprendre, mais voir en quoi ces discours contredisent nos façons de penser les plus habituelles, et finalement que...
Accepter d'être contredit.
Accepter d'être contredit, être surpris, d'être étonné. Par exemple, un philosophe qui s'appelle Alexandre Coiré disait « Le pari de la physique moderne, celle qui est née avec Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel, c'est-à-dire ce qu'on observe, par l'impossible. » Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire que les lois physiques, quand on les entend énoncer la première fois, contredisent l'observation. Par exemple, elles disent que tous les corps tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Quand nous laissons tomber une pomme en même temps qu'une balle de ping-pong, la pomme touche le sol avant la balle de ping-pong. Donc la loi de Galilée de la chute des corps contredit ce que nous voyons de la chute des corps. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes.
Autour de la question comment partager sa science, je vous propose d'écouter Christine and the Queen sur RFI Science Fiction. Christine and the Queen sur RFI, autour de la question comment partager sa science, en compagnie du physicien et philosophe Étienne Klein, parrain de la manifestation Science and You, qui rassemblera à l'Université de Lorraine à Nancy cette semaine, chercheurs et médiateurs scientifiques venus du monde entier, pour se demander comment faire infuser la science dans la société. Parmi les nombreux intervenants, Elisabeth Rassé-Koala, venue d'Afrique du Sud, où elle tente de monter un réseau panafricain d'éducation et de communication de la science. Écoutez son point de vue, vu d'Afrique du Sud.
Le problème de la communication scientifique, c'est ce carcan de l'anglais et cette approche européano-centrée qui domine et qui bride l'innovation et la créativité dans les autres parties du monde. C'est ça le réel problème pour nous de la communication scientifique. Le langage est un élément crucial. Venant d'un pays comme la France, vous connaissez l'hégémonie de l'anglais. Pouvez-vous imaginer le défi que cela représente dans les pays africains comme au Nigeria, où il y a plus de 200 langues? Vous imaginez à quel point cette question de la langue est cruciale pour donner aux gens l'accès et le sentiment de participer, de contribuer et d'interagir dans cette communication scientifique. C'est très difficile. Même dans les pays anglophones ou francophones d'Afrique, nous savons très bien que ce n'est qu'une petite élite qui parle anglais ou français. La majorité s'exprime dans les langues vernaculaires. Comment produire du matériel scientifique dans les langues locales? Comment faire des programmes radio en langage local? Car c'est le langage qui donne accès aux gens. Et on l'a vu très clairement lors de la crise Ebola dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. La barrière du langage, c'était le grand défi pour faire passer le message. Surtout dans les villages reculés, où les gens ne parlent ni anglais, ni français. Je pense que ce que nous devons déjà faire, c'est augmenter le nombre de chercheurs africains sur le continent et le nombre de communicants en sciences qui soient africains. On en a très peu, et beaucoup de chercheurs africains ne sont pas engagés pour diverses raisons dans la communication scientifique, comme ils devraient l'être.
Elisabeth Rasekoala, qui est donc montée à partir de l'Afrique du Sud, enfin, qui est en train de le monter, un réseau panafricain de communicants en sciences. Apparemment, il y a du boulot. Vous voulez réagir à cet éclairage?
Oui, mais je pense que c'est un véritable problème, hein, le fait que, en effet, la langue s'exprime surtout en anglais.
La science s'exprime
chez nous plutôt en français, évidemment.
Et donc, mais les communications scientifiques sont en anglais.
Voilà, il y a un double problème de traduction. Il y a le fait que la science ne se dit pas spontanément dans une langue, quelle qu'elle soit. Donc il y a un problème de traduction, un premier problème de traduction, et ensuite il y a le fait que l'anglais et le français, ou d'autres langues assez importantes, je pense qu'il y a quand même beaucoup de publications en allemand par exemple, ne sont pas compris par une grande partie de la population. Donc c'est en effet un immense chantier. Cela dit, par exemple si je vous dis, il y a un siècle, Einstein a mis sur point une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la théorie de la relativité générale. Et je vous explique toutes les équations qu'il y a dans ce formalisme. Évidemment, ça va être très compliqué. Je vais employer des termes abstraits, je vais utiliser des équations, et peu de gens vont me suivre. En revanche, l'idée de base qui a mené Einstein vers cette théorie peut être expliquée assez simplement dans toutes les langues. Et cette idée de base, il l'a eue en 1907, quand il était expert au bureau des brevets en Suisse, à Berne. Et il raconte ça dans son autobiographie scientifique. Il dit, j'ai compris ce jour-là qu'une personne en chute libre, donc qui tombe, ne sent pas son propre poids. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous tombez, évidemment vous tombez du fait que vous avez un poids. Mais les objets qui tombent avec vous, par exemple votre chapeau, votre parapluie, d'après Galilée, ils tombent à la même vitesse que vous. Donc par rapport à vous, ils ne tombent plus. Ils sont en apesanteur par rapport à vous. Et donc, Einstein comprend là quelque chose d'assez étonnant, c'est que si vous tombez, c'est à cause de votre poids, mais le fait de tomber produit un effet qui semble annuler la cause qui vous fait tomber. Et vous voyez que ça devient quelque chose que n'importe qui peut comprendre.
Et dans n'importe
quelle langue. Quelle que soit la langue qui dit cela, et en réfléchissant sur cette situation qui va conduire Einstein au principe d'équivalence, 8 ans plus tard, il va proposer une nouvelle théorie de la gravitation. Et on n'a pas besoin de connaître les équations. Je pense que pour la culture générale, il suffit de connaître l'expérience de pensée qui a mené Einstein sur ce chemin.
Et cette expérience de pensée, elle serait donc transmissible au fond dans toutes les langues, encore faudrait-il le faire finalement?
Je pense que là, il y a un défi pour tous les chercheurs, en effet. Mais est-ce qu'il existe des chercheurs en suffisamment grand nombre et avec des origines suffisamment différentes pour que toutes les langues puissent être comprises par eux et qu'ils puissent s'exprimer dans ces langues? Je n'en sais rien à vrai dire. Mais je crois qu'en effet, il ne faut pas rêver à une langue unique, une sorte de langue supranationale qui viendrait servir de langue unique de communication des sciences. Il faut que la culture des uns et des autres trouve une trace dans la façon de dire la science.
Avec, à chaque fois, sa propre manière de dire les choses.
Oui, c'est la seule façon d'être compris par ceux qui parlent cette langue. Autrement dit, il faut dire la science non pas par des langues qu'on appelle dénotatives, qui ne font que dire platement ce qui est un peu comme les hôtesses de l'air, mais il faut passer par des langues connotatives, c'est-à-dire qui fassent appel à notre propre culture, à notre histoire.
Et qui nous fassent ressentir, au fond.
Voilà, et qui nous fassent ressentir ce qui est dit là. Sinon, il n'y a aucune chance que ça laisse des traces.
Autour de la question comment partager sa science, on va continuer de nous interroger, en français, hein, avec le physicien et philosophe Étienne Klein, suite dans 3 minutes sur RFI, juste après le flash d'info. À tout de suite.
Contactez autour de la question @rfi.fr.
de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question comment partager sa science avec notre invité, le physicien et philosophe Étienne Klein, l'un des prestigieux parrains de la manifestation Science and You, qui réunit en Lorraine à l'université de Nancy cette semaine chercheurs et médiateurs scientifiques du monde entier venus s'interroger sur l'art et la manière de faire passer la science dans la société. Écoutez voir ce qu'en pense Dominique Leglu, directrice de la rédaction du mensuel Science et Avenir.
Moi, c'est des vraies questions que je me pose et que doivent se poser les collègues journalistes aussi. C'est l'art d'intéresser, mais aux différents âges. Est-ce qu'il y a vraiment des tranches d'âge ? On prétend que oui, on voit que des collègues dans l'éducation font, je ne sais pas, du 4-8 ans, du 8-12, du 12-7. Est-ce que ça marche vraiment comme ça? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça? Quels sont les ressorts qui font que vraiment on peut attirer vers l'univers scientifique qui lui-même est une série perpétuelle de questions? Comment intéresser aux questions et pas aux réponses?
Comment intéresser aux questions et pas aux réponses? Vous avez des pistes, Étienne Klein?
Moi, je pense qu'il y a quand même des réponses intéressantes. Il y a des questions intéressantes, mais parfois, on trouve des réponses. Et il faut pas laisser penser que la science est simplement une série de questions auxquelles on ne répond jamais. Je pense qu'il y a vraiment des avancées. Par exemple, il y a 2500 ans, les philosophes grecs, enfin certains d'entre eux, imaginent qu'il existe des atomes séparés par du vide. Cette idée va travailler la pensée pendant des siècles. Jusqu'au jour où on va trouver que les atomes existent, on va le prouver expérimentalement. Donc on va dire les atomes existent. Ça, c'est une expérience de 1907 qui a été faite à Paris par Jean Perrin à la suite de travaux faits par Einstein, toujours le même. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que l'atome qu'on a découvert n'a pas les propriétés que les Grecs lui avaient attribuées.
Donc il faut aller chercher plus loin et plus petit.
Autrement dit, l'objet qu'on a trouvé n'avait été préalablement pensé par personne. Et on sait que cet objet-là existe, on a une réponse. Évidemment, cette réponse n'est pas celle qui avait été anticipée, ce qui est la preuve que le réel s'impose à nous parfois. Mais je pense que les réponses, il faut aussi les expliquer, sinon on se perd en conjectures à l'infini. La récente découverte du boson de Higgs aussi, c'est une réponse à une question qui s'est posée il y a 50 ans, et on a mis 48 ans à montrer...
Mais ce sont des réponses qui sont très importantes, mais qui n'arrêtent rien, qui au contraire ouvrent encore d'autres champs de recherche.
Qui peuvent aussi produire des chocs pour la pensée. Par exemple, le boson de Higgs montre que l'association qu'on fait toujours entre masse et matière, elle n'est pas si évidente. Ça, c'est quand même quelque chose que les philosophes n'avaient pas forcément imaginé. Et puis, en effet, comme vous le dites, cette réponse, qui est une réponse qu'on a longuement attendue, ouvre de nouvelles questions. Par exemple, est-ce qu'il existe qu'une seule sorte de boson de Higgs? Est-ce qu'il y a de la matière noire en plus? Comment compléter? Enfin bref, il y a maintenant place pour de nouvelles questions, mais on a avancé dans l'affaire.
On a avancé. Et pour revenir aussi à ce que disait Dominique Leglu tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il faut, évidemment qu'on ne peut pas parler de la même manière à un enfant de 8 ans qu'à un adulte, mais est-ce que vous, quand vous, dans vos ouvrages ou quand vous faites des conférences, est-ce que vous pensez, vous, par tranche d'âge?
Écoutez, il y a mille manières de communiquer. L'intérêt de Science and You, c'est qu'on va confronter des expériences. Il y a des gens qui utilisent beaucoup l'image, la vidéo, la mise en scène, etc. Bon, moi, ma technique, c'était plutôt le livre. D'écrire des livres. Bon, j'ai jamais pensé en termes de tranche d'âge. Cela dit, après avoir beaucoup écrit sur des sujets compliqués, plutôt à destination des adultes, et je mets pas de tranche d'âge chez les adultes, je me suis senti capable récemment d'écrire un livre pour les adolescents.
Après,
sur le Big Bang. Mais après avoir fait un travail compliqué, c'est-à-dire...
Y a-t-il un instant zéro?
Donc interroger la question du Big Bang, et finalement écrire pour les plus jeunes... m'a semblé être plus difficile qu'écrire pour les plus âgés. Et en tout cas, ça n'est possible qu'après avoir vraiment clarifié les enjeux fondamentaux.
Faut pouvoir quoi, tout expliquer
Non, il faut aller à l'essentiel et puis problématiser les choses à un niveau qui rende le discours que l'on tient intéressant à tout point de vue, c'est-à-dire intéressant philosophiquement, intéressant pour la qualité de la langue et évidemment pour les enjeux scientifiques qu'on souhaite exprimer.
Et qui sont des enjeux, alors scientifiques et toujours philosophiques, au fond c'est peut-être aussi en mettant en lumière le fait que ces questions de science posent des questions existentielles, philosophiques, qu'on s'est toujours posées, c'est peut-être là qu'on peut aussi...
Oui, moi je pense, enfin, moi c'est des souvenirs personnels, quand j'étais adolescent, j'étais beaucoup plus réceptif à d'éventuels chocs pour ma pensée, que lorsqu'on est adulte, c'est là qu'on peut être bousculé par une découverte, qu'on comprend des choses qu'on croyait incompréhensibles, qu'on peut éprouver quelque chose qui est très précieux dans le rapport qu'on peut avoir avec la science et qu'on appelle des joies intellectuelles. Une joie intellectuelle, c'est vous ne comprenez pas, vous échouez à comprendre, vous revenez sur un problème, il vous résiste, et puis tout d'un coup, vous comprenez. Ça procure une joie qui n'a pas d'équivalent. Il y a de multiples formes de joie, évidemment. Mais ces joies-là, la joie de comprendre après avoir eu du mal à comprendre, ou après n'avoir pas compris du tout, c'est une joie qui est absolument unique et spécifique.
Un documentaire qui vous est consacré s'appelait Libido Sciendi. C'est quoi? C'est le désir de comprendre, le désir de connaître, le désir de découvrir?
Oui, la joie de comprendre, on pourrait même dire.
La joie de comprendre.
Moi, j'étais un élève qui comprenait mal. Enfin, j'avais des bonnes notes parce que je répétais très fidèlement ce que je devais répéter et qu'avait dit le professeur. Mais au fond, je comprenais pas. Et c'est qu'après, en travaillant l'histoire de la physique, j'ai compris d'une part pourquoi je ne comprenais pas. C'est parce que la physique est encore plus dingue que ce que j'imaginais. Et j'ai surtout compris ce que j'avais à comprendre. Par exemple, si j'ai encore une minute, on apprend au lycée le principe d'inertie. Vous savez, qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire un corps qui n'est soumis à aucune force avance en ligne droite en gardant la même vitesse indéfiniment. Et ce principe, qui a été énoncé pour la première fois par Galilée, est un des principes fondamentaux de la mécanique. Et on l'enseigne comme une sorte d'évidence. Car il suffirait de regarder le monde autour de soi pour comprendre la légitimité de ce principe. Or, on ne voit jamais de mouvement inertiel autour de nous. Tous les mouvements que nous voyons s'amortissent. Et donc, vous voyez que la physique, d'emblée, elle vient vous étonner en vous proposant de comprendre l'amortissement des mouvements que vous observez autour de vous par l'invocation d'un mouvement idéal que vous n'observez jamais.
Donc il faut à la fois se laisser surprendre et peut-être aller, pour communiquer ou partager la science, aller justement dans ce qui peut surprendre l'autre.
Exactement. Il ne s'agit pas de provoquer l'étonnement, il s'agit de dire que la physique, par la façon qu'elle a de comprendre le monde, elle est étonnante. Elle énonce des lois qui sont quand même très bizarres par rapport à ce qu'on peut déduire de l'expérience directe. Et donc, si vous voulez, tout le monde dit aujourd'hui il faut donner le goût des sciences aux jeunes, aux adultes, etc. Moi, je pense que ça commence par donner du goût aux sciences. Du goût aux sciences. Une fois qu'elles auront du goût, évidemment, ça sera pas très difficile de les diffuser, de les transmettre. Mais il faut pas que ce soit une punition. Quand on dit qu'il faut avoir le goût des sciences, c'est comme si c'était une sorte de devoir presque moral que de s'intéresser aux sciences. Non, on a le droit de pas s'y intéresser. Évidemment, c'est un droit fondamental. Sauf que c'est vraiment intéressant.
Comment donner du goût aux sciences, hein? Il y a pas mal d'initiatives quand même aujourd'hui qui essayent d'aller dans ce sens-là. Jusque dans les bars, vous reprendrez bien une petite pinte de science, Étienne Klein.
Oui, j'ai déjà fait ça.
Pint of science.
Quelques mois, j'ai parlé dans un bar devant des gens qui n'étaient pas à un degré d'alcoolémie strictement égal à zéro.
Et ben c'est exactement ça, Pint of Science, encore inspiré nos voisins anglo-saxons. C'est un café scientifique où l'on boit des bières avec de prestigieux chercheurs. Trois soirées peintes de science se sont déroulées à Paris en mai dernier. Notre reporter Hugo Struna n'a pas hésité à payer de sa personne au bar Le Mécano dans le 11e arrondissement de Paris où une cinquantaine de personnes environ ont partagé des bières avec le chercheur en neurosciences Serge Stoleru, ambiance.
Bonsoir à tous, je vous demande toute votre attention. Donc déjà, je voudrais remercier absolument tout le monde d'être venu ici, d'être venu pour cette seconde édition de Pint of Science ici en France.
Alors, je vais parler de mes travaux sur ce qu'on appelle la neuro-imagerie fonctionnelle du désir sexuel. Je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Il commence à intéresser les scientifiques, c'est très très récent.
Donc pour vous, c'est bien des bières, de la science dans un bar. En plus, là, il y a un petit peu de monde autour de nous. Vous pensez que la soirée va remplir son objectif?
Bon, je ne sais pas comment ça va se passer parce que là, on est vraiment dans un bar et les gens viennent plus pour s'amuser que pour apprendre. Mais bon, c'est une expérience, on va voir.
Je suis venu voir de la science vulgarisée dans un cadre plutôt sympathique, voilà, passez une bonne soirée.
Alors, une chose aussi, à peine croyable, je dois dire, même des orgasmes peuvent venir de crises d'épilepsie.
Je suis graphiste à la base, donc rien à voir avec la recherche, et c'est aussi pour ça que c'est cool d'être là, découvrir un truc que je connais pas.
Moi, j'ai trouvé que le public était incroyablement attentif. Franchement, c'était au-delà de ce que j'imaginais.
Vous avez eu le temps de boire une bière quand même pendant votre présentation?
Pas pendant la présentation, mais maintenant.
Si jamais l'opportunité se présente, vous referiez ça volontiers?
Ah oui, oui, sur cette expérience-là, oui, complètement, oui, vraiment.
C'est très bien, c'est ouais. Très sympa, bonne ambiance.
À la fin de la soirée, on a ingurgité autant de bière que de connaissances scientifiques ou c'est déséquilibré?
Je pense que chacun peut choisir. Ouais, je trouvais ça très intéressant également, on a appris beaucoup de choses. On aurait peut-être aimé boire un peu plus de bière, mais on va se rattraper là.
Bon, allez, santé.
Voir ou boire de la science, au fond, même plus la peine de choisir. Vous aviez parlé de quoi dans votre pinte de science à vous, Étienne?
C'était sur la question de l'origine de l'univers. Y a-t-il un instant zéro? Ça m'avait permis d'ailleurs de roder mon...
Votre
mon
livre à destination des adolescents.
Voilà. C'est important de se roder parce que on n'a pas toujours la capacité de savoir à quel niveau on doit parler, comment adapter l'impédance de son discours à l'auditoire qui est là.
Et avec une petite pinte de bière, beaucoup. Ça aide ou...
Oui, et puis moi j'apprends beaucoup en regardant les visages des gens. Est-ce qu'on voit très bien s'ils sont en train de comprendre ou pas? Est-ce qu'ils suivent ou non? Et on peut comme ça jouer avec le regard des gens pour faire que son discours passe un peu mieux. Et ça sert ensuite beaucoup dans le travail écrit. C'est important de savoir ce qui est déjà connu du public pour lui transmettre de nouvelles connaissances.
Et en même temps, pour animer aussi, on parlait de ce désir de science ou cette joie de la connaissance ou de la découverte. C'est aussi, vous essayez de voir ça un peu dans l'œil de votre interlocuteur?
Oui, enfin, on voit même des cas de sidération, hein, de gens qui découvrent des choses dont ils ont vaguement entendu parler, mais qui leur sont expliquées de façon plus précise et qui sont subjugués parce qu'il y a de quoi. Moi, j'ai un petit problème, c'est que ce que je raconte aux gens ne touche pas directement leur vie quotidienne.
Oui, c'est un peu plus difficile que le désir en neuroimagerie.
Le désir sexuel, évidemment, ça...
Ça marche tout de suite, ça.
Marche. Nous, c'est plus compliqué. Il y a forcément un itinéraire que l'auditeur doit suivre ou le lecteur doit suivre pour arriver jusqu'à ce qu'on veut lui dire. Mais une fois qu'il a été pris, je pense qu'il ne lâche plus.
Il ne lâche plus quand on lui parle de trous noirs, d'énergie noire, enfin d'énergie sombre. C'est vrai que ça peut aussi, enfin, la science, votre science, la physique, même si on comprend pas tout, vous l'avez dit, ça peut faire rêver ou emmener plus loin.
Oui, et puis c'est une façon aussi de montrer qu'il y a des connaissances qui augmentent l'ignorance.
Il y a des connaissances qui augmentent l'ignorance.
Voilà,
oui.
C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais étudiant, on m'expliquait que toutes les particules de matière que nous connaissions, les quarks, les électrons, constituaient le contenu de l'univers. Toute la matière était faite de ces particules. Aujourd'hui, dis-donc, il y a de la matière noire, dont on ne connaît pas la nature, qui vient en plus.
Et puis, il y a de l'énergie noire. Hein.
Voilà. Et donc, en fait, la matière qui existait dans les années, disons, 70, ne constitue que 4% du contenu de l'univers. Et donc, on a fait des découvertes qui nous ont montré qu'on en savait moins que ce qu'on croyait savoir. Et donc, c'est pour ça que je dis que cette découverte scientifique augmente notre ignorance.
Et rendre philosophe aussi, quelque part. Enfin, vous êtes physicien et philosophe.
Non, je suis pas philosophe.
Je suis philosophe des sciences,
donc c'est toute petite partie de la philosophie qui...
Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression que les questions de philosophie, elles sont souvent posées par les scientifiques aujourd'hui.
De plus en plus, ils assument ça, ils se cantonnent pas à l'aspect technique de leur activité. Par exemple, un physicien, c'est quelqu'un qui soit utilise les lois physiques, soit cherche à découvrir de nouvelles lois physiques. Bon, évidemment, il doit se poser la question du statut des lois physiques dans l'univers. Est-ce que les lois physiques existaient quand l'univers est né, ou est-ce qu'elles sont apparues au cours de son histoire? Est-ce qu'elles sont à l'extérieur de l'univers? Est-ce qu'elles sont transcendantes? Est-ce qu'elles sont immanentes? C'est une question métaphysique. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'on aura un jour la réponse à cette question. Mais on ne peut pas s'empêcher de se la poser. Et le fait de se la poser donne à son travail de physicien une portée, un intérêt, une grandeur qu'il est bon d'avoir en tête.
Et de partager autour de la question comment partager sa science. Vous aimez aussi, Étienne Quin, partager vos musiques. Et comme vous avez un grand faible pour les Rolling Stones, on a choisi pour vous Dancing in the Light. Les Rolling Stones,
sur RFI.
Waiting for the train that never will arrive. could do with your face all shining. Got some new work, got some realigning. Now that your nose got some redefining.
Les Stones sur RFI, c'est quelle année, Étienne Klein ?
Mais je crois que c'est 64.
Incollable, décidément.
Mais, attendez, non, je peux me tromper.
Bon, on va vérifier après.
Si j'avais à parier, je parierais sur 64.
On vous croit autour de la question. Comment faire passer sa science autour de cette manifestation Science and You à l'Université de Lorraine à Nancy ? Une semaine d'interrogation donc, et de partage de la culture scientifique. Je vous propose maintenant un dernier éclairage sur ce qu'on appelle les sciences participatives avec l'entomologiste Vincent Albouy, spécialiste des perce-oreilles.
La science participative est très utilisée en entomologie parce que c'est un domaine tellement vaste, ça demande énormément de temps de collection de données. Et la science participative permet de récolter ces données, enfin certaines de ces données, par justement le grand public. Ça a donné de très belles opérations, notamment autour des papillons des jardins, autour du lucane cerf-volant, qui est un insecte protégé au niveau européen. Et qui est assez reconnaissable, donc on a fait appel au grand public et ça a permis de cartographier la présence de l'insecte où il se trouvait en France, avec des densités très différentes selon les régions. S'il avait fallu envoyer sur le terrain des entomologistes professionnels, ça aurait coûté très cher et on aurait eu 10 fois moins de précision dans la cartographie. Alors que là, grâce au grand public et à la science participative, ça a pu être fait. Alors après, la science participative a aussi ses limites, qui est notamment une imprécision. Le grand public n'a pas la même rigueur de détermination qu'un entomologiste, je dirais, non pas professionnel, puisqu'il y a énormément d'amateurs, mais disons qu'un entomologiste formé. Mais le grand nombre des observations permet de compenser en partie ce défaut et en tout cas permet d'obtenir des éclairages qu'on aurait difficilement autrement.
La science participative, hein, pour cartographier le nombre d'insectes, de papillons ou d'oiseaux, faire appel aux amateurs éclairés, c'est possible.
Oui, en tout cas sur certaines sciences qui demandent beaucoup d'observations, de témoins, pour la biodiversité par exemple, pour la façon dont les espèces évoluent, se déplacent, se reproduisent, etc.
En astronomie aussi, oui.
Il y a beaucoup d'exemples en astronomie qui montrent que des astronomes amateurs ont pu faire des découvertes très importantes.
Il y a le projet Fripon aussi qui devrait se dérouler dans l'an pour repérer les chutes de météorites en faisant appel justement à tout le monde, parce que plus il y aura de monde et plus qu'on risquera de...
Oui, puisqu'ils tomber à peu près partout, donc voilà. Il faut qu'il y ait des témoins qui soient capables de transférer leurs données, s'ils en ont, aux personnes qui vont les insérer dans un protocole scientifique. Bon, il y a des limites, ça a été dit.
En physique, c'est plus compliqué.
Pour
hein.
trouver une nouvelle particule, il faut des moyens très lourds, il faut des accélérateurs de particules, et ça ne peut pas se partager.
Non, ce que vous pouvez partager...
On peut partager des expériences, c'est-à-dire, je pense qu'on peut faire en sorte que le public intéressé vibre un peu plus aux découvertes. C'est-à-dire, au lieu de lire des communiqués qui disent « Voilà, on a découvert telle particule, bidule truc », de faire en sorte que cette découverte soit précédée par une information, par des visites, par des explications.
Et par des liens aussi aux grandes questions qui nous occupent.
Voilà, enfin... et qui soient contextualisées. On peut même commencer par les journalistes, quand on sait que peut-être telle ou telle expérience va déboucher sur des découvertes importantes. Former les journalistes. journalistes pour que le jour où ces découvertes sont faites, ils trouvent les bons mots et le bon contexte pour présenter ce qui aurait été obtenu.
Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui, Étienne Quin, dans ce monde interconnecté où on a tous beaucoup, beaucoup d'informations, est-ce que c'est plus facile de faire passer justement la science ou certaines, certains sauts de l'esprit comme ça, justement ?
C'est plus facile de publier, d'écrire des choses sur Internet, d'écrire des blogs, etc. Est-ce qu'ils sont lus ? Est-ce qu'ils sont compris ? On est dans un monde très, très concurrentiel. Et je ne suis pas sûr que quand on cherche des informations sur un sujet, ce soit les connaissances des scientifiques qui soient les premières à être détectées par Internet, par exemple, plutôt que les croyances des uns ou des autres. Autrement dit, cette multiplication des supports pose la question de ce qu'il adviendra de la compétition entre les croyances et les connaissances.
Qui se repose aujourd'hui.
Oui, je ne sais pas qui va gagner.
Alors, heureusement, sur Internet, il y a aussi ce qu'on appelle les MOOC. Vous venez de me dire qu'en français, il y a un autre mot pour dire ça.
Ce sont les flow. Flow, ça veut dire formation libre et ouverte à tous.
Donc, sur Internet, on peut avoir des cours, on peut avoir suivre les cours des plus grands scientifiques. On peut, où qu'on soit, notamment dans le Sud, on peut avoir accès à ces cours qui, auparavant, étaient réservés plutôt à une élite. On peut les suivre, pas vraiment passer des examens, mais on peut en tout cas se former. C'est une piste, ça aussi. Ouais,
c'est une piste, puisque ça permet de faire en sorte que n'importe qui, où qu'il soit et à quel cage qu'il se trouve être, puisse se former, à condition évidemment d'avoir un ordinateur, mais ça permet d'avoir une bibliothèque de cours qualifiés, faits par des gens qui ont passé des diplômes et qui le MOOC lui-même a été soumis à des critères qui permettent de garantir la qualité de son contenu, de faire que par un effet de démultiplication, beaucoup plus de gens soient formés que si on en reste au public des amphithéâtres.
Vous qui écrivez des livres, vous passeriez bien par la case MOOC ?
Ben, j'hésite, parce que moi je suis vraiment un homme de l'écrit, j'ai toujours peur quand je vois que ce qui est écrit se transmet sous forme d'image. J'ai une réticence à l'égard de l'image.
Et pourtant, notamment dans ce Science and New, il y a pas mal de films, festivals de films de chercheurs, il y a des choses qui passent par des documentaires, par des films.
Mais c'est une inhibition que je dois dissoudre rapidement.
Vous préférez les mots ?
Je préfère les mots.
Les anagrammes aussi.
Les anagrammes, mais peut-être que l'image, le dessin, le discours devant une caméra sont des moyens qui viennent compléter les propos qu'on peut tenir par écrit.
Et parce que pour illustrer par exemple les trous noirs ou l'énergie sombre ou la question du temps, c'est compliqué avec des images.
Au contraire, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à faire des modélisations, qui utilisent des images de synthèse, qui montrent des résultats de simulation, qui sont peut-être beaucoup plus parlants que les équations qui permettent d'obtenir ces résultats.
Oui, en même temps, il faut toujours quand même quelqu'un derrière qui parle.
Mais si on peut avoir les deux, peut-être que l'illustration par des images rend les choses plus faciles à comprendre. Peut-être qu'il y a là une sorte de mutation anthropologique, carrément, qui vient changer notre rapport à la connaissance. On a plus besoin de voir pour comprendre qu'autrefois, parce que l'image devient un vecteur presque exclusif de la transmission des informations.
Donc là aussi, c'est à réfléchir pour la communication scientifique.
C'est à réfléchir. Est-ce qu'il faut s'y adapter complètement ? Non, je pense qu'il faut résister et continuer à produire des textes. Mais on ne peut pas nier que ce phénomène est porteur de promesses.
Merci Étienne Quin d'être venu en direct pour partager avec nous un peu de votre culture scientifique. Amis auditeurs qui êtes en France, je peux vous donner rendez-vous à Nancy, donc à l'Université de Lorraine, toute cette semaine, en compagnie de chercheurs et de médiateurs scientifiques de tous les pays, venus débattre et partager la culture scientifique. Alors je rappelle que vous êtes Étienne Quin, le parrain de cette manifestation Science and New, avec le mathématicien Cédric Villani et la généticienne Brigitte Kiefer, qui vient de l'Université McGill de Montréal. On peut aussi, Étienne Quin, citer vos derniers ouvrages parus, alors Le Monde, selon Étienne Quin, aux éditions L'Équateur, France Culture, et pour les jeunes, mais pas que, Y a-t-il eu un instant zéro, et ça c'est paru chez Gallimard. Merci à vous Étienne Quin, on se quitte avec un petit brin de musique, Laurie Anderson, Big Science.
Where they're thinking of building that drive-in.
sur internet www.rfi.fr.
Demain, comment anticipons-nous ? Nous découvrirons avec le neurophysiologiste Alain Berthoz du Collège de France et le philosophe Claude Debruys pourquoi et comment se projeter dans le futur est une propriété fondamentale du vivant. À demain pour nous projeter avec Guillaume Ploquin à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, surtout, restez curieux, amis auditeurs, à l'écoute de RFI, un nouveau journal dans 30 secondes.